Sempre più spesso, nel luogo dove mi trovo, un uomo senza volto mi compare davanti e mi si ferma accanto sempre più a lungo di quanto io possa sopportarlo. È un uomo alto e asciutto.
Le 5 décembre 2008, Alberto Ngaro était présent à la librairie L'Autre Rive à Toulouse. À ce jour, il a publié en France 3 ouvrages, La taverne du doge Loredan, Le secret de Gaspard Jacobi et La partita. Tous 3 aux éditions Anacarsis. Ils sont traduits par Jacqueline Malherbe-Galli et Jean-Luc Nardone. C'est ici Jean-Luc Nardone qui traduit les propos de l'écrivain vénitien.
Non l'ho mai visto, ma fin dal giorno in cui, ahimè, ebbi la certezza della sua esistenza, mi accade di attribuirgli l'atteggiamento e le vesti, se non il viso da resto nascosto dal cappello del gentiluomo arrogante che rientra a casa dopo una notte di
On va peut-être d'abord se pencher sur le décor, la trame un petit peu des romans d'Alberto Ngaro. Dans un des ouvrages, c'est un éditeur qui tombe sur un roman. Dans le deuxième, c'est un écrivain. Ça tombe bien, on est dans une librairie. Alors en fait, toujours cet univers des livres, on a la chance, on a que 2 romans traduits en français. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent dans votre œuvre de mêler en fait le monde du livre au roman lui-même?
Non potevo far altro. Io non ho fatto altro che scrivere e leggere durante la mia vita. Quindi è chiaro.
Il ne pouvait pas faire autrement parce que toute sa vie il a toujours lu. Aimer les livres et d'une certaine façon, il se projette à l'intérieur des personnages, des histoires.
Ci sono dei libri con i quali io sono cresciuto. Posso anche menzionarli. Il primo, devo dire, non è una.
Les livres, par ailleurs, ont beaucoup compté pour lui et notamment le premier des livres qu'il estime avoir compté est un livre français, donc le Grand Maulne.
La mia vita è Le Grand Maulne di Henri Alain Fournier. Dopo ci sono altri libri fondamentali. Il, diciamo, il libro successivo. Dopo essere passato attraverso anche libri minori, voglio dire, romanzi d'avventura.
Outre d'autres livres mineurs qui peuvent être des livres d'aventure, des westerns, etc. L'autre livre très très important pour sa formation, qui l'a bouleversé même une certaine dimension érotique, c'est Les Carnets de Malte de Rilke.
Érotico, e sono i quaderni di Malte di Rilke. È stato leggendo quel libro che io ho capito che dovevo fare lo scrittore, che dovevo incominciare a vivere come.
Donc c'est ce livre de Rilke qui lui a vraiment donné envie d'écrire, de devenir écrivain, alors que jusqu'à présent il avait fait comme la plupart des gens selon lui, c'est-à-dire il avait gribouillé des petites histoires, etc. Mais là vraiment, il a senti que ça valait la peine, c'était de devenir écrivain. Et donc.
Il modo di concretizzarli. Quando ho conosciuto Hugo Pratt, sono stato immédiatement.
Également, sa rencontre avec Hugo Pratt a été déterminante parce qu'il ne voulait pas se lancer dans de la grande littérature. Et donc, il a dit, commençons par faire des choses simples, comme par exemple des livres pour jeunes, donc des bandes dessinées.
Facciamo un giornale per ragazzi. Questo giornale ha un po' determinato la nostra vita successiva perché
ces histoires qu'ils écrivaient ont eu un grand succès auprès d'un éditeur d'origine italienne mais qui en fait était en Argentine. En fait, c'était des juifs qui avaient fui donc en Argentine et qui leur ont proposé, ça leur plaisait tellement, leur ont proposé d'aller en Argentine. Et là, il y a passé 7 ans, en leur faisant une offre à prix d'or qu'ils ne pouvaient pas tellement refuser. Donc, ils sont allés, ils ont vécu là-bas. Pour répondre à votre question initiale, les livres ont été essentiels pour lui et puis sont concrétisés aussi dans l'écriture qui porte elle-même un autre objet livre. Et donc, finalement, tout tourne en effet autour de ça.
Un livre, un objet. In cui la scrittura è diventata concreta, fatto concreto, non un sogno soltanto.
Alors, il y a un autre élément qui fait partie du décor, mais qui est omniprésent, en tout cas dans ces 2 livres-là, c'est Venise, la ville de Venise. Alors on a une Venise encore plus mystérieuse, encore plus intemporelle, avec en plus une sorte un petit peu de décrépitude. Et il se trouve que quand les personnages sont dans d'autres grandes villes, puisque dans l'un on est à un moment donné en Angleterre, dans l'autre on est à New York, il y a aussi ce sentiment d'être dans une sorte de ville un peu labyrinthique, un peu comme des décors de cinéma ou de théâtre qui pourraient tomber d'un moment à l'autre. En tout cas, pour Venise, c'est omniprésent. Est-ce que cette ville, puisque je crois que Alberto est vénitien, joue un rôle aussi dans son œuvre littéraire ?
Venezia mi si impone anche quando io non la voglio.
Il dit Venise s'impose à moi même quand je la veux pas, elle s'impose à moi et finalement je cède. Et en même temps, je cède volontiers parce que c'est un décor qui lui plaît beaucoup.
Emozioni umane. Io ho collocato anche fatto scritto storie.
Les personnages qu'il crée, même quand c'est des romans qui se passent à Los Angeles, le personnage principal, la plupart du temps, il est vénitien. Donc il en a ni honte ni fierté particulière, c'est comme ça. Mais en même temps, il est important aussi que ce personnage vénitien ne reste pas simplement vénitien et que on puisse oublier cette dimension et que il s'inscrive dans une histoire qui, elle, d'une façon, peut toucher naturellement bien au-delà de Venise.
Ou la propre patrie.
Tous ces personnages secondaires, parce qu'on parlait de deux secondes quand même, il y a des personnages assez incroyables qui sont là, ou en couleur. On peut citer rapidement la comtesse Zobenigo, qui est une gitane obèse qui lui lie à Bonne Aventure. Thorax, qui est un. Dont le métier de détruire des annuaires téléphoniques et qui rêve de détrôner le champion du monde de boxe. Andreas Paléologue, qui est un voisin complètement torturé. Amateur héraldique, vous avez aussi ce moine défroqué qui court après les jeunes filles. Felding, qui est un brigand donc, qui dégage une odeur très très nauséabonde. On a l'impression, on aurait presque envie que chacun de ces personnages donne lieu à un roman.
Io li amo i personaggi secondari.
Donc il les aime, les personnages secondaires.
Dopo spiegherò, se volete, anche quella faccenda di come li tiro su.
Vous pouvez même expliquer, si vous voulez, comment naissent ces personnages.
Io invento un personaggio e devo rispettarlo, quindi devo caratterizzarlo. Non mollo mai un personaggio a se stesso, che se ne vada via o che sparisca, che non abbia un ruolo, anche se ha un ruolo minore.
Cerco di caratterizzarlo. Les personnages mineurs, secondaires, il les aime beaucoup et il cherche à les caractériser de façon très forte, justement parce qu'ils sont mineurs. Par exemple, cette comtesse Zobenigo, dont le nom ne veut rien dire d'autre qu'un non petit village yougoslave, mais en même temps, il ne se sent pas le droit de l'abandonner parce que c'est un personnage mineur et au contraire, il y attache beaucoup d'importance. Il essaie de lui donner une vraie force. Et donc tout ça pour traduire son attachement à ces personnages secondaires.
Determina può determinare la vita di una persona. Il mio modo di lavoro ha un mio metodo ha un'origine nobile. Quando io ero al liceo sono rimasto molto colpito da un filosofo dal pensiero di un filosofo greco che è Anassimandro.
Sur l'origine de ces personnages, lorsqu'il était élève, il avait été frappé par un philosophe qui s'appelle Anaximandre et on lui avait expliqué que pour ce philosophe, les âmes étaient comme disons, une espèce d'attente, qu'il appelle un hôtel Dieu, que les gens sur Terre meurent pour qu'elles puissent prendre leur place à la place des gens qui devaient mourir. Donc la mort était nécessaire pour que toutes ces âmes qui attendaient puissent s'incarner et devenir des êtres humains. Et donc sur ce système, il s'est dit, mais bon, laissons tomber cette histoire d'âme. Et imaginons que finalement les personnages sont exactement dans cette situation, qu'il y a des millions de personnages qui préexistent et qui attendent simplement à ce qu'on leur cède la place pour pouvoir s'exprimer. Et donc il dit, ils attendent non pas comme les âmes dans l'éther, mais ils attendent dans le fond d'une page blanche.
Il mio hotel die è la pagina bianca. Quando comincio un libro, io scrivo tanti nomi a caso, così.
Quand j'écris un livre, j'écris des tas de noms comme ça au hasard.
Finché sento che qualcuno mi risponde.
À ce que j'entende qu'un personnage me réponde.
Allora lo tiro su. E lui viene su con la sua storia.
Je le tire avec son histoire.
Poi vado avanti, tiro su altri nomi e ciascuno viene su perché ogni nome ha una storia. Ciascuno viene su con la propria storia e via via se metto insieme queste storie comincia a formarsi un tessuto narrativo che io posso usare.
Voilà, donc petit à petit tire des personnages, chaque personnage vient pas seulement avec son nom mais aussi avec son histoire. Petit à petit comme ça se crée cette trame hein, qu'il essaie de mettre ensemble pour créer ses romans.
Alors Schulz, je fais une digression, c'est un personnage qu'on retrouve également dans un ouvrage de Corto Maltese qui est Fable à Venise.
Schulz si ritrova pure nel Corto Maltese, dove c'è un tipografo, no? E l'ha visto stamattina. Fable de Venise, favola di Venezia, sì.
Perché, beh, vabbè, qua bisogna discutere sul mio rapporto con Ugo Pratt.
Vuoi dire un mot sur son rapport avec Ugo Pratt?
Ugo Pratt voleva disegnare la taverna del Doge Loredan.
Ugo Pratt voulait en fait dessiner la taverne du Loge Loredan.
Ma non soltanto voleva disegnarla, voleva anche, insomma, sono un autore anch'io, perché non mi lasci firmare assieme a te la storia? Io
Tom. Il a dit non, je veux pas seulement faire les dessins, je veux aussi apparaître comme auteur. Et lui a dit va te faire voir.
Perché Ugo era un simpaticissimo e un grande amico, era le grand monde per me, lo è stato, insomma, per. Bah, era una canaglia.
Voilà, Ugo Pratt était très sympathique, mais c'était une vraie canaille aussi.
Di proporzioni immense, rubava a destra e a sinistra, anche i libri. Non gli ho mai perdonato, gli ho rubati anch'io. Non c'era una volta che venisse a casa mia che non. E veniva sempre con una cartella sotto il braccio.
Quand il venait chez lui, il venait toujours avec un cartable.
In modo da poter infilare un libro.
Pour pouvoir lui piquer des trucs chez lui.
Che mi portava via. E io sapevo che cosa faceva.
No?
Allora gli dicevo, guarda, scusami, va, prendimi quella roba. E gli portavo via il libro che mi aveva portato via.
E gli disse, tiamo a avere un truc, e gli vide son cartable che l'aveva rompito.
E una volta gli ero detto anche, ma casualmente. Ma
che gli ha detto, oh, ma c'è come ça, un po'.
Non c'era nulla di casuale nel libro.
Non c'era pas de hasard dans ce que faisait Ugo Pratt.
D'accord. Schulz, c'est pas un hasard,
non.
Non,
Ugo aveva cominciato a farla, aveva fatto la tipografia e ha dato il nome Schulz, perché sperava di poter andare avanti e a farla alla taverna, e io me l'ha detto. E io gliel'ho lasciato.
Oui, parce que c'était dans son projet, justement, de dessiner la taverne après. Hein, donc il avait déjà introduit le personnage de Schulz. D'accord. Pour pouvoir éventuellement
Les choses stanno esattamente così come le dico io. Non pensate che io approfitto del fatto che Ugo non c'è più per dire quello
che c'est exactement ce qui s'est passé, ne croyez pas que parce qu'il est mort que je raconte tout ça.
Non.
D'accord. Alors, dans les deux romans, vous en profitez pour faire une sorte de réflexion ludique mais aussi assez caustique sur le rôle de l'écrivain. Alors, un écrivain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un faussaire, un truqueur, quelqu'un qui s'arrange avec la réalité? C'est quoi un écrivain?
È un burattinaio.
C'est un marionnettiste.
È il destino dei personaggi. Lui decide il destino dei personaggi.
Qui décide du destin des personnages.
Che però non sempre lo accettano il destino. I personaggi protestano perché si crea un rapporto medianico fra l'autore e i personaggi.
Ce qui ne veut pas dire que les personnages acceptent ce destin. Parfois, ils peuvent se rebeller.
Par exemple, dans Second Zack.
Dans le secret des Second Zack.
Mentre io scrivevo la storia, mi dispiace, lui non l'ha letto.
Tandis que j'écrivais l'histoire, il est désolé, vous ne l'avez pas encore lu en français, c'est pas encore traduit.
C'est plus difficile de capirlo. Mi portava, vedevo che la storia mi portava verso una soluzione banale.
Vous voyez que l'histoire le portait vers une solution banale.
tipica del 7-800. Lui, il personaggio non è un bastardo, oppure è il bastardo di un principe, il fratello l'altro gli ha preso il posto. A savoir
che il personaggio è un bâtard, ou c'est un bâtard, ma c'est quand même le fils d'un prince. Enfin, quelque chose qui est assez banal dans les histoires du 18e.
Ora, il personaggio protestava.
Protestava,
diciamo, non la voglio questa soluzione, è stupida, è banale, eccetera. E ho dovuto cercarne un'altra che è venuta quella giusta, insomma. Tutti questi personaggi chiaramente sono io che dico.
Il personaggio protesta, ma in même temps il è lucido, il sait bien che l'auteur c'è lui, e che questa protestazione dei personaggi è anche un dialogo qu'il ha avec lui-même. Il dit parfois il est même obligé de changer ou de créer un autre personnage intermédiaire qui lui dit mais non regarde ce que tu écris c'est vraiment pas bon.
Que questa è una soluzione sbagliata. Ariosto faceva volare i cavalli.
C'est l'Arioste faisait voler les chevaux dans le Roland Furieux.
E io faccio diventare metafore degli animali che non esistono, insomma li chiamo metafore. Come potevo chiamarli? Uno dice.
Donc, lorsqu'il dit d'une certaine façon qu'en Fielding dit mais moi je veux me libérer de tous mes démons intérieurs, de toutes mes bêtes, d'une certaine façon, ça c'est une métaphore. Alors, s'il y a des bêtes qui tournent autour de lui, bah, autant les appeler directement des métaphores, puisque ce sont elles qui proviennent de lui.
Poi vedo una bestia, così che potrebbe essere la bestia di cui parlava metaforicamente. Fielding, e dico è un'idea meravigliosa, la chiamo metafora, poi vedo un branco intero di metafore.
Donc il disait j'ai ce plaisir d'écriture mais en même temps j'ai tout plein d'angoisse en moi, hein, et à tel point qu'un critique littéraire a dit de lui que c'était un écrivain non pas de cap et d'épée mais de Kafka et d'épée.
Ho detto un critico italiano molto importante sostiene che io sono uno scrittore di Kafka e spada.